Oui, à propos de l'acceptabilité, j'avais l'impression que dans le second exposé, c'est un peu linéaire, c'est-à-dire on va de l'acceptabilité a priori à l'acceptation puis à l'appropriation, comme s'il n'y avait pas remise en cause ensuite. Par exemple, on parlait de notre modèle, le modèle de Carole, où il y a appropriation ou désappropriation. C'est-à-dire que si vous introduisez la notion de temporalité, il y a bien, à travers l'usage, un feedback, alors un rebond ou adaptation comportementale, je ne sais pas, mais qui fait que l'acceptabilité n'est jamais acquise. Elle est locale, temporaire, elle peut évoluer, augmenter, diminuer. Et alors comment on fait pour suivre cette temporalité et maintenir toujours... Enfin, c'est un peu l'impression que j'avais la désappropriation, le rejet n'apparaît pas et peut poser un problème. On s'engage, on décide de changer ses comportements et les gains escomptés n'apparaissent pas. Tellement minimes que du coup j'abandonne et ça ne s'installe pas et je rejette, etc. Voilà, c'est un peu cette question. Voir des effets pervers aussi. Par exemple, vous parlez des aides à la conduite, il peut y avoir des effets pervers où on se désengage et on délègue à l'automatisme, ou etc., à tout ce que vous voulez, la gestion de ses propres... enfin, le contrôle de ses régulations, enfin, de ses, des choses qu'on faisait pour avoir un comportement adapté, citoyen, tout ce que vous voulez.
Oui, j'en profite pour... aller dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire qu'on a, eu deux recherches qui nous ont été présentées, une plutôt critique, l'autre plutôt dans ses interventions, plutôt effectivement, comme le disait François, qui paraît très assez opposées finalement dans leur cadre conceptuel. Or, elles se retrouvent quand même toutes les deux sur ce déterminisme, finalement, pour l'un de la technique, pour l'autre du savoir, sur les comportements. On a peu ce que vous disiez, ce feedback. Finalement, le terme de feedback est un terme un peu justement systémique hein, qui est peut-être trop limité, mais justement, on a peu cette écologie de la perception comme le travail des sociologues américains qui pourrait être intéressante à ce moment-là.
Oui, alors dans le prolongement de ce qui a été dit également, comment on voit que la question de l'acceptabilité sociale est peu intégrée finalement dans le domaine des SHS, c'est une définition d'ingénierie. Et donc comment, puisque cette question-là n'est pas acquise, effectivement, comment vous situez cette définition dans votre champ disciplinaire par rapport aux démarches participatives, à la médiation qui, depuis la Convention de la Rue, se développe? Est-ce que c'est en parallèle? Est-ce que c'est en amont? C'est en aval? Comment, en s'appropriant cette définition, vous vous situez
Bonjour, donc moi je suis docteur en psychopolitique, donc je suis ni sociologue ni psychologue. Donc, je vais donc aborder quelques questions qui sont justement d'ordre plus politique peut-être. Puisque quand on parle d'acceptabilité sociale, on a souvent donc, l'impression qu'il y a des politiques qui sont d'abord menées de leur côté par les acteurs politiques et économiques, et qu'ensuite il va s'agir en fait de les faire accepter a posteriori, sans forcément consulter les individus qui vont devoir subir ces politiques-là. Et je pense que quand vous parliez, dans votre exposé sur les apports de la psychologie sociale, quand vous parliez de politique, c'était les politiques et pas le politique. C'était comment est-ce que la psychologie peut aider les politiques, donc les hommes politiques, à faire des politiques. Et le rapport entre le politique et l'acceptabilité sociale et la politique, enfin le politique et le développement durable, me semblait un peu moins abordé, dans le sens où, certes, le développement durable est important. Donc on a des chercheurs qui vont dire qu'il faut compter les enjeux et les dangers, d'autres chercheurs qui vont dire voilà comment faire. Mais il me semble que c'est aussi important de voir au nom de quoi est-ce qu'on peut ensuite imposer une politique. Et certes, le développement durable c'est quelque chose qui est important, mais on a peut-être besoin d'avoir un débat démocratique sur les moyens pour y arriver, plutôt que de définir d'abord ces politiques et ensuite de dire comme elles sont légitimes, comme il faut qu'on ait un développement durable, on peut aller demander à des spécialistes qui vont nous dire voilà comment faire. Je pense qu'on a à la fois besoin d'avoir des politiques qui, une fois qu'on a déterminé ce qu'il fallait faire, on puisse le faire, mais avant ça, qu'on puisse déterminer démocratiquement en débattant ce qu'il faut faire. Et ce qui est par exemple pas tellement le cas, j'ai l'impression, dans les smartlistes d'aujourd'hui. Ce qui pose une autre question, qui est que les acteurs qui s'occupent des smartlistes, par exemple, veulent en effet qu'on réduise la consommation d'énergie et vont donc demander comment est-ce qu'on peut faire accepter ces technologies aux gens pour qu'ils les utilisent et pour qu'on puisse vendre les technologies, etc. Mais une autre question qui n'est pas posée, et j'en reviens à l'époque qu'on a vu au début, sur l'effet rebond. Puisqu'on sait aujourd'hui qu'une grande partie des économies d'énergie vont être allouées à d'autres postes. Donc on utilise un consommant d'énergie chez soi, on la consommera ailleurs. Et donc, est-ce que ces politiques en matière d'acceptabilité sociale sont suffisantes si on fait accepter quelques dispositifs marginaux, si plus globalement on ne remet pas en cause des logiques plus profondes qui vont être j'économise un peu d'argent à l'économie chez moi, je l'utilise ailleurs. Et au final, est-ce qu'on a vraiment un développement durable là-dedans? Donc je voulais avoir votre point de vue à tous les cas sur cette question. Merci.
Je vais continuer à faire un petit peu les écoles, les chapelles, en mettant plus M. Nguyen sur l'anthropologie, parce que au départ vous avez dit, je me reconnais plus socio-anthropologue que sociologue. Et pendant toute la communication, j'ai été assez frappée par l'attribution aux objets de spécificité qui est plutôt du vivant, des objets qui communiquent, naturalisation des objets, technologie intelligente. Au départ, la communication, l'intelligence, c'était plutôt dans le règne du vivant, et le non-vivant n'a pas trop ces attributions-là. Et en même temps, vous finissez à la fin, où le vivant devient la gêne, devient là où il y a de l'incertitude et qu'il faut encore plus contrôler, ça devient quelque chose de plutôt négatif. Dans ce système de pensée-là. Donc, dans cette séance un peu plus axée sur le positionnement, recherche et tout, est-ce qu'il n'y a pas un réinvestissement du rôle de l'anthropologue ou de cette catégorie anthropologue par rapport à la place du vivant dans cette évolution-là où finalement le vivant est de plus en plus caché, nié, perçu comme négatif, à la marge, et c'est le non-vivant qui est au centre et qui est le bien, le correct, le progrès, tout ça.
Effectivement, acceptabilité du développement durable, est-ce qu'il ne faudrait pas tout d'abord commencer à s'interroger qu'est-ce que ça veut dire que d'accepter une notion floue, hein? On ne s'interroge pas suffisamment sur la nature même du développement durable. Donc, comment est-ce qu'on peut faire passer une notion qui elle-même, par définition, est problématique, floue, et qui est sujette à de multiples interprétations, à de multiples usages et manipulations. Il y a déjà ce premier problème. C'est peut-être pour ça que l'acceptabilité aussi pose problème. Le second point, c'est la question peut-être aussi des échelles de l'acceptabilité, hein, des échelles et des acteurs de l'acceptabilité. Je pense que entre les citoyens, hein, d'une part, les scientifiques, d'autre part, c'est-à-dire que cette notion même de développement durable fait problème chez les scientifiques, hein, qui se débattent entre eux sur sa réalité ou pas, hein, et puis à l'intérieur même du développement durable, des politiques différentes, donc sur la notion même de durabilité qui est aussi à définir, hein, la durabilité profonde, la durabilité légère, etc. Et puis, au niveau des politiques ensuite, hein, l'usage que les politiques eux-mêmes comprennent de la durabilité, ce qu'ils en font, hein, dans leur, les élus, hein, notamment dans leur politique urbaine. Hein, il y a quel but, et pour quel but et pourquoi ils en font. Hein, pour comprendre les écoquartiers, qu'est-ce que ça veut dire. Bon. Et puis alors, au niveau, alors, d'une manière beaucoup plus générale, au niveau des pays, hein, puisqu'il y a les conflits entre les pays du Nord et les pays du Sud, au niveau de l'acceptabilité même du développement durable et de ses principes, ses objectifs, etc. Et on sait qu'à ce niveau-là, toutes les conférences internationales aujourd'hui, malgré toutes les grandes intentions, aboutissent à des échecs. Hein, le dernier Rio 20, ça a été un vaste échec. Bon. Donc, vous voyez que la question de l'acceptabilité ici devrait être posée par rapport à ces problèmes de l'objet lui-même, développement durable, qu'est-ce qu'il veut dire, et d'autre part, de la compétence des différents acteurs, des différents niveaux d'intervention.
Oui, moi je trouve que qu'on pourrait peut-être alimenter la réflexion en introduisant une notion complémentaire. Nous avons la notion d'appropriation, nous avons la notion d'acceptation ou d'acceptabilité, nous avons la notion de consentement, vous avez utilisé toutes ces notions, mais il me semble qu'il y en a une qui existe aussi depuis longtemps dans les philosophies politiques, qui est la notion de concernement, notamment développée par Rousseau dans la question du contrat social. Et en quoi les questions nous concernent-ils? Et selon quel spectre temporel, existentiel, géographique nous concerne-t-elle? Dans quelle mesure, autrement dit, la question posée interfère avec l'univers de nos préoccupations, de nos attentes, de nos craintes ou de nos désirs ou espérances? Il me semble que ça pourrait être intéressant parce que, d'une certaine façon, je crois que la politique de développement durable telle qu'elle se met en place aujourd'hui, faute de travailler sur la question du concernement, prend une direction, au moins dans les pays occidentaux, en tout cas en France, qui va d'une certaine façon déplacer ou surmonter la question de l'acceptabilité. L'écologie punitive risque d'une certaine façon de résoudre la question de l'acceptabilité sociale. Hein. Quand on vote au Parlement l'imposition de mesures de bonus-malus sur la consommation électrique, d'une certaine façon, ça veut dire qu'on se fiche de l'acceptabilité sociale de la question, ou tout au moins qu'on va la régler de manière technopolitique, indépendamment des pratiques qui impliqueraient les habitants. Et là, il me semble que, faute de pouvoir concevoir en quoi il serait possible de travailler sur le concernement par les questions écologiques des citoyens, d'une certaine façon, une forme de technocratie plus ou moins autoritaire risque d'advenir.